Et j'accueille ce soir Christian Minot qui va nous parler de la catalyse. Christian Minot est né en 1945. Il est docteur troisième cycle de l'université de Paris Orsay. Il a fait sa thèse d'état à Orsay aussi en 77. Il a fait aussi au passage une licence de philosophie dans les années 80. Il a une carrière d'enseignant à l'université de Paris Orsay où il a été assistant, maître de conférence et enfin prof. Et maintenant, il est professeur au laboratoire de chimie théorique de l'université Pierre et Marie Curie, le campus de Jussieu. Il est professeur au laboratoire de chimie théorique de l'université Pierre et Marie Curie. Sa spécialité sont la modélisation de la structure et de la réactivité à l'interface des solides et des gaz par les méthodes de la chimie quantique. Mais il va nous parler en fait ce soir de la catalyse. Il est l'auteur de nombreuses publications scientifiques, techniques dans des revues et il collabore très régulièrement à des recherches et des enseignements dans les universités américaines. Voilà, je lui donne la parole pour 50 minutes et ensuite il répondra à vos questions. Merci.
Je remercie Yves Michaud pour son invitation et sa présentation. Et je vous remercie tous d'être venus au mois d'août. Je vous présente le plan de l'exposé. Il reviendra périodiquement entre les autres transparents. J'ai l'intention tout d'abord de définir un peu longuement ce que c'est qu'un catalyseur et les propriétés qui sont reliées à la catalyse. Puis de parler des principaux domaines de la catalyse en insistant davantage sur la catalyse hétérogène. Enfin, j'aurai une conclusion. Bon, pourquoi avoir sélectionné la catalyse parmi les thèmes des conférences de l'an 2000 ? C'est parce que les réactions catalytiques jouent un rôle très important dans notre vie. Les processus catalytiques interviennent à tous les niveaux usuels de notre vie, dans notre corps et dans les produits quotidiens. La plupart des réactions biologiques sont des réactions catalysées. Par exemple, c'est celles qui nous permettent de respirer. C'est celles qui régissent le transport et l'assimilation des aliments. C'est aussi la photosynthèse des plantes. La catalyse joue aussi un rôle très important dans des processus industriels majeurs pour fabriquer tous les produits chimiques de notre environnement. Les engrais, par exemple, sont fabriqués à partir de l'ammoniac et la synthèse de l'ammoniac est un processus catalytique. Le pétrole est extrait sous une forme qui n'est pas directement utilisable. Sa transformation en une forme utilisable, qui est le raffinage, ne peut être faite que par un procédé catalytique. Les voitures et les usines engendrent des tas de composés nocifs. Leur transformation ou leur élimination, leur transformation en produits inoffensifs se fait à l'aide de processus catalytiques. Pour les voitures, les catalyseurs sont essentiellement des métaux sous forme dispersée dans les pots catalytiques. Je vais essayer d'expliquer ce que c'est la catalyse, mais il faut tout d'abord observer qu'il s'agit d'un grand enjeu industriel protégé par des brevets, et que du point de vue pragmatique, la compréhension du phénomène n'est pas le phénomène premier. La priorité, c'est l'amélioration des performances. Si on dispose d'un catalyseur efficace, on peut améliorer son efficacité par tâtonnement. Il y a une recherche de catalyseurs nouveaux par chimie combinatoire, en effectuant un large échantillonnage de réactifs pour sélectionner les systèmes prometteurs. Bon, parallèlement, expérimentateurs et théoriciens essaient d'expliquer ce que c'est que les processus catalytiques. Et comprendre un processus catalytique, c'est aller au-delà d'un simple bilan. Cela nécessite de décrire le parcours de réactifs dans leur environnement. Et c'est en cela que j'attends des progrès pour le prochain siècle. Je vais commencer par une histoire que me racontait mon grand-père quand j'étais petit. Un homme avait 3 enfants et 17 chameaux. Et à sa mort, son testament prévoyait d'en donner la moitié au fils aîné, le tiers au deuxième et le neuvième au dernier. Et évidemment, il interdisait qu'on coupât un chameau en morceaux. À sa mort, les frères sont allés trouver un sage qui leur a suggéré d'emprunter un chameau. Et à ce moment-là, le partage devient possible. La moitié conduit à 9, le tiers à 6, le neuvième à 2, et il reste un chameau pour rembourser l'emprunt. Mais ce chameau emprunté et rendu me semblait mystérieux à cet âge où je connaissais mal les fractions et me semble donner une bonne image de ce que c'est qu'un catalyseur. Un catalyseur, c'est un composé qui rend possible une réaction chimique, mais qui n'est pas lui-même modifié pendant la réaction. Comme le chameau, il rend possible une réaction, mais il en ressort indemne. Le mot de catalyse, il a été inventé en 1836 par Berzelius, à partir du grec, catalysis, action de dissoudre. Alors ce n'est pas un très bon exemple du phénomène catalytique, parce qu'à l'heure actuelle, on ne considère pas que le solvant, à moins d'une interaction très spécifique, est un composé extérieur. Et un catalyseur nécessite de faire venir un composé extérieur et non pas simplement de changer un paramètre physique. La catalyse est une notion associée à la cinétique par opposition à la thermodynamique. D'une manière simplifiée, c'est la thermodynamique qui nous dit si une réaction est possible ou n'est pas possible. La thermodynamique nous apprend qu'il y a des fonctions locales ou fonctions d'état qui sont associées aux quantités de matière. Pour simplifier, j'emploierai sans préciser le terme d'énergie. Une transformation chimique se traduit par un gain ou une perte d'énergie. Les variations ne dépendent que des réactifs et des produits. Elles sont indépendantes du trajet, du chemin suivi pour passer des premiers aux derniers. En allant de Grenoble à Gênes, vous finirez toujours par descendre de 214 mètres, la différence d'altitude entre les deux villes. L'altitude est une fonction locale qui est définie pour les deux villes, celle de départ et celle d'arrivée. La thermodynamique nous apprend qu'il est plus facile d'aller de Grenoble à Gênes parce qu'on aura descendu et qu'il sera plus difficile de faire l'inverse parce qu'il y aura un effort et qu'il va falloir remonter. Il est évident que ce renseignement ne décrit pas tout le voyage. Vous pouvez passer par les Alpes et commencer par monter bien davantage avant de redescendre. Vous pouvez prendre l'avion et monter encore beaucoup plus haut avant de redescendre. Vous pouvez passer par Marseille, contourner la montagne et prendre la mer pour arriver à Gênes. Une voie est plus facile qu'une autre. La cinétique étudie les vitesses des réactions. Dans la catalyse, pour poursuivre mon image, on va s'intéresser aux moyens de transport. Et comme dans la vie, il y a plusieurs choix. On peut choisir le voyage le plus rapide, le moins coûteux ou le plus touristique. L'expérience montre que les processus contraires à la thermodynamique n'ont jamais lieu. On peut descendre sans effort, on ne peut remonter qu'au prix d'un effort. En revanche, les processus théoriquement permis ne se produisent pas toujours. Bon, si vous possédez un billet d'avion pour aller à une destination, ça ne garantit pas forcément l'arrivée. S'il y a un puits, vous ne tombez pas forcément au fond du puits. Alors, je vais vous montrer une réaction. Voilà l'écriture d'une réaction qui produit l'eau à partir de l'hydrogène et de l'oxygène. Le signe moins traduit qu'il y a un gain d'énergie pour le système extérieur. Le produit final, l'eau, est plus stable que les produits de départ. Donc la réaction devrait être une réaction facile. Elle n'a pas lieu dans les conditions naturelles. Sitôt qu'on ajoute un petit peu de platine, cette réaction devient explosive et se fait. Alors, autrefois, elle était utilisée parce qu'elle produisait une petite flamme, alors l'explosion n'était pas si grande, dans la boîte à Amadou pour produire du feu avant qu'il y ait des allumettes. C'est une chose qu'il ne faut pas regretter, que toutes les réactions qui peuvent se faire ne se fassent pas spontanément. Si cette réaction était spontanée, on consommerait tout l'oxygène de l'air très facilement et la vie serait impossible parce que l'air serait irrespirable, il n'y aurait pas assez d'oxygène. On modifie la vitesse d'une réaction de différentes manières, en agissant sur l'environnement. On peut agir sur des paramètres physiques, on peut chauffer, modifier la température, la pression, exposer à la lumière. La catalyse consiste à ajouter un produit dans l'environnement pour modifier cette vitesse. Un catalyseur peut agir sur un acte élémentaire, sur le bilan d'une réaction complexe ou orienté vers une réaction plutôt qu'une autre. Je vais commenter ces trois points. Agir sur un acte élémentaire. En général, on va commencer par casser des liaisons avant d'en reformer dans une réaction chimique. Ici, on va casser AB avant de reformer BC. Et donc, on va commencer par perdre de l'énergie et arriver à un état qu'on appelle l'état transition. Le prix à payer, ce qui va coûter un effort, c'est de passer des réactifs à l'état de transition. Après, c'est facile de redescendre. Si on ajoute un catalyseur, ben on va modifier l'énergie de l'état de transition par rapport à celui des réactifs. Et si on abaisse plus l'état de transition que les réactifs, bien dans ce cas-là, le prix à payer au départ sera moindre et on aura un catalyseur. Agir sur le bilan d'une réaction complexe. Le bilan d'une réaction peut être trompeur. D'abord, le catalyseur n'apparaît pas. C'est normal, il est présent au début de la réaction, il n'est pas modifié, il est toujours là à la fin de la réaction. Et puis le bilan ne nous renseigne pas sur le trajet parcouru, pour reprendre mon image du trajet de Grenoble à Gênes. La lecture d'un billet de train nous donne plus de renseignements en indiquant quelles sont les stations traversées. Bon, pour un exemple de réaction chimique, voilà le bilan qui correspond à la synthèse de l'ammoniac. On part de trois molécules d'hydrogène, d'une molécule d'azote, pour former l'ammoniac. Et la rencontre de quatre molécules est quelque chose de tout à fait improbable et ne peut pas se faire. Donc cette réaction ne peut pas être un acte élémentaire. C'est une succession de différentes étapes. Alors la première consiste à absorber l'hydrogène sur le catalyseur. Alors pour ceux qui étaient là hier, ils ont entendu parler d'absorption qui concerne des rayonnements. Ici, l'absorption avec un D au lieu d'un B concerne un adsorbat qui se pose, qui est absorbé sur un substrat. L'adsorbat, c'est la molécule, le réactif, et le substrat, ça va être le catalyseur. Or, dans cette réaction, tout d'abord, l'hydrogène est absorbé sous forme dissociative, l'azote est absorbé sans se casser, puis l'azote bouge sur la surface et les liaisons entre les deux atomes d'azote sont rompues. Et puis, les atomes absorbés bougent et se rencontrent, forment des liaisons NH, jusqu'à former trois liaisons NH et l'ammoniac. Orienté vers une réaction plutôt qu'une autre. Si vous partez en voyage depuis Grenoble, il n'est pas évident que vous souhaitiez aller à Gênes. Vous pouvez changer d'humeur, il y a d'autres destinations qui sont plus tentantes. Il en est de même en chimie. Les réactifs peuvent se combiner de différentes manières pour conduire à différents produits. Et le catalyseur peut modifier les données du jeu en orientant vers une réaction plutôt qu'une autre. On parle alors de sélectivité. Bon, dans cette réaction, les réactifs sont le propène et l'oxygène, toujours les mêmes. On obtient différents produits, vous voyez leur liste dans la colonne de droite. Et rien que d'après les formules, vous voyez que c'est des composés très différents. Dans la colonne de gauche, vous avez les catalyseurs qui sont utilisés et chaque catalyseur conduit à un produit et non pas à un autre. Pour compléter la définition de ce que c'est qu'un catalyseur, il faut aussi introduire la notion de turnover. Une caractéristique du catalyseur est de ne pas être consommé par la réaction. On dit qu'il est régénéré. Une conséquence immédiate de ce fait est que le catalyseur peut resservir après emploi. Les réactions se répètent en principe indéfiniment. Bien entendu, je décris là une situation qui est une situation idéale. En fait, le catalyseur vieillit. Les catalyseurs métalliques sont recouverts d'espèces qui bloquent leur activité. Alors, c'est le carbone, le coquage ou des polymères, ou des dépôts de soufre. On parle d'empoisonnement par le soufre. L'efficacité du catalyseur dépend du nombre de réactions successives. Cela est traduit par le mot anglais de turnover. Si le bilan financier est favorable, les catalyseurs sont retraités. Le coût de récupération d'un métal précieux sur l'alumine est de l'ordre de 30 francs par kilo. Dans le cas des pots catalytiques, les quantités de métaux précieux sont en général trop faibles pour être récupérées. Enfin, comme à toute chose malheur est bon, on peut profiter du phénomène d'empoisonnement. On peut utiliser une petite quantité de poison sous forme de pré-traitement pour bloquer des réactions parasites et augmenter la sélectivité du catalyseur. Maintenant que nous avons défini ce qu'est un catalyseur, je vais présenter les principaux domaines de la catalyse qui concernent en fait presque toute la chimie. On peut les classer dans quatre domaines principaux. Pour la chimie organique, c'est la catalyse acido-basique. Pour la biochimie, ce sont les enzymes. Pour la chimie organométallique, c'est la catalyse homogène. Et pour la chimie des surfaces, c'est la catalyse hétérogène. Commençons par la catalyse acido-basique. Gould, c'est un chimiste, un organicien, Gould a fait remarquer que la moitié des réactions décrites dans une encyclopédie sont catalysées par des acides, des bases ou les deux. Plus l'acide ou la base sont forts, plus le catalyseur est puissant. La vitesse de déshydratation de molécules comme les diols, ce sont des molécules qui possèdent deux fonctions OH, est d'autant plus grande que les acides carboxyliques qui servent de catalyseur sont forts. Je vais prendre un exemple qui est peut-être plus facile, qui est celui de l'isomérisation d'énol en cétone. Bon, l'énol et l'acétone sont deux isomères. Ils sont faits du même nombre d'atomes. L'acétone, ici, c'est l'acétaldéhyde, est plus stable que l'énol. Dans l'énol, l'hydrogène est lié à l'oxygène. La principale différence pour l'acétone, c'est que cet hydrogène est lié au carbone. S'il n'y a pas de catalyseur, on doit déjà couper une liaison avant d'en reformer. Ça coûte de l'énergie. Ça pose un problème de trésorerie. Il faut commencer par dépenser de l'argent avant de se faire rembourser. Bon, quand on va utiliser un catalyseur, on va avoir une situation qui est plus favorable. Si je prends la catalyse basique, j'ajoute une base et au moment où je romps la liaison OH, je vais former une liaison entre la base et l'hydrogène. Donc je vais récupérer un peu d'énergie en formant une liaison. Alors, parallèlement, il se forme un énolate qu'on peut écrire sous deux formes et la deuxième forme montre qu'on peut aller facilement vers le produit final. Pour la catalyse basique, je vais au contraire ajouter directement le proton sur le carbone. Donc je vais gagner de l'énergie dès le départ. À la fin, l'hydrogène qui se trouve sur le carbone, je ne sais pas si on voit bien les couleurs, celui qui est bleu, n'est pas le même que celui de départ qui était dans l'éna. Il y a eu échange entre des protons. L'eau est une molécule heureusement très stable. Les liaisons OH sont difficiles à rompre. Sur l'alumine, l'eau peut se dissocier et cette dissociation se fait avec l'assistance d'une deuxième molécule d'eau. Alors, voici le mécanisme de la réaction. Cette liaison OH se rompt et en même temps, de façon concertée, la liaison entre cet oxygène et cet oxygène se fait. Et simultanément, l'autre liaison, celle de la molécule qui est assise, va se rompre. Et cette liaison-ci, entre O et H, va se former. Les réactions, les liaisons se rompent et se forment de manière simultanée, ce qui résout les problèmes de trésorerie. On a une catalyse qui est à la fois acide et basique. Je vais parler maintenant des enzymes. Les enzymes sont des catalyseurs très sélectifs et très performants, qui catalysent des réactions biochimiques. Ce sont des protéines qui peuvent aussi comporter une partie non protéique, qui est une coenzyme, et qui comprend souvent un cation métallique. Les vitamines, en se fixant sur le corps, se transforment en coenzymes et participent à la formation, au développement de la vie. Les enzymes sont très spécifiques. Elles n'agissent que sur un seul substrat ou sur une famille de composés ayant des fortes analogies structurales. La spécificité vient de deux facteurs. Un, c'est l'appariement, pour que le catalyseur soit présent. Et deux, c'est l'acte catalytique lui-même, qui est en général localisé sur un site qui est différent du site de fixation. L'enzyme doit d'abord épouser une forme complémentaire du substrat pour s'adapter. Elle doit se déformer pour pouvoir adopter une forme correcte. Et l'appariement est maintenu par des liaisons. Ce sont des liaisons entre des soufres ou des liaisons de type hydrogène. Ce rapprochement permet le contact en un site particulier, différent du site de fixation, qui est le site actif où se produit la réaction catalysée. Alors l'adaptation géométrique est un préalable à l'acte catalytique. Le processus de repliement d'une protéine se fait extrêmement rapidement, de l'ordre de 10-2 secondes, et c'est une rapidité très surprenante. Si on fallait modéliser en échantillonnant toutes les possibilités de forme de protéines, l'âge de l'univers n'y suffirait pas. C'est ce qu'on a, c'est paradoxal. L'acte catalytique est lui-même semblable à celui des autres domaines de la catalyse et qui peuvent servir de modèle à la catalyse enzymatique. Bon, sur ce transparent, je vous montre une enzyme, un catalyseur qui est la ribonucléase, et cette enzyme hydrolyse l'acide ribonucléique. Bon, ce que vous voyez ici symbolisé, c'est la forme repliée, qui est déjà une forme maintenue, grâce à des ponts disulfure. Ce sont les quatre traits verts qui apparaissent un peu plus forts là, sur le transparent. Il y a un site de fixation qui est à l'intérieur de cette zone, qui est modélisé en bleu, et ce site de fixation contient des bases. C'est normal, on veut essayer de fixer un acide dessus, donc il va y avoir des bases à l'intérieur de ce site. Et les sites catalytiques, les sites actifs catalytiques, il y en a deux, ce sont les deux sites en rouge qui sont bien distincts du site de fixation. Et chacun réalise une réaction qui est très spécifique, que je ne vais pas détailler. Les inhibiteurs empêchent la catalyse. Soit ils ressemblent au substrat et trompent l'enzyme qui se fixe sur eux. Et alors, à ce moment-là, l'enzyme n'est plus disponible. Soit il modifie l'enzyme en se fixant sur le site actif. Il n'empêche pas la fixation, mais la catalyse ne se produit plus. La catalyse homogène, maintenant. L'appellation d'homogène s'oppose à celle d'hétérogène. Dans la catalyse homogène, le catalyseur est un complexe organométallique dans une solution qui constitue un milieu homogène. C'est un composé bien connu, tant du point de vue géométrique que du point de vue électronique. Dans la catalyse hétérogène, la catalyse se produit à l'interface d'un solide et d'un gaz, ou d'un solide et d'un liquide. Le catalyseur est un site de la surface qui varie selon l'emplacement. L'intérêt de la catalyse homogène est qu'elle peut être davantage contrôlée. Elle concerne un site unique dont l'environnement est bien défini. Une réaction se produit au cours d'un cycle catalytique, au cours duquel le complexe de métal de transition passe d'une forme moins stable à une forme plus stable. Alors, on utilise des décomptes d'électrons pour savoir quelles sont les formes stables, et les formes stables sont à 16 et 18 électrons. La forme la plus stable est à 18 électrons, la forme la moins stable, celle du catalyseur, est à 16 électrons. Le rhodium, ici, a une charge plus. Il a 8 électrons. Il y a 4 ligands, 4 groupes fonctionnels liés au rhodium. Chacun apporte 2 électrons au complexe et ça donne un total de 16 électrons. On a un complexe à 16 électrons. Dans le complexe qui est représenté à droite, le rhodium a formellement une charge de 3+. Donc il a moins d'électrons, il n'a plus que 6 électrons. Mais cette fois-ci, il y a 6 ligands. Chacun apporte toujours 2 électrons. Et on a un complexe qui est un complexe à 18 électrons. Ces complexes vont se retrouver dans le procédé Monsanto de formation de l'acide acétique. La production d'acide acétique représente 4 mégatonnes par an, dont la moitié est réalisée par le procédé Monsanto. C'est un procédé extrêmement efficace. Le turnover est de l'ordre de 10 à 100 réactions par seconde. La durée de vie du catalyseur correspond à environ 10 millions de réactions consécutives, environ quelques heures à une journée. La réaction consiste en l'insertion de CO dans le méthanol, entre le carbone du méthanol, ME représente un groupe méthyl, CH3, donc entre le carbone du méthyl et l'oxygène. Et on obtient l'acide acétique MeCOH. Le méthanol est formé facilement par une source, par un mélange d'oxyde de carbone et d'hydrogène. Et le catalyseur est formé à partir de n'importe quelle source de rhodium et d'iodure. Le cycle catalytique qui réalise la réaction, en fait, insère CO non pas sur le méthanol dans MEI. On va voir tout à l'heure comment on passe de l'un à l'autre. Voilà symbolisé le cycle catalytique. Vous reconnaissez le complexe dont j'ai parlé, à 16 électrons. Au cours du cycle, il est transformé en des complexes à 18 électrons. Et à la fin du cycle, on retrouve le complexe à 16 électrons. Les composés entrants sont l'iodure de méthyle et CO. Ce sont les réactifs. Les composés sortants, CMECI. Donc, au terme d'un cycle, on a réalisé une réaction. Et on recommence. La réaction fait en fait appel à un deuxième cycle. Et le deuxième cycle, qui est le cycle supérieur, est catalysé par l'eau et l'acide iodhydrique et consiste simplement à échanger les groupes iode et OH. Donc à la fin, on a bien une insertion de CO dans le méthanol en utilisant les deux cycles simultanément. Bon, l'inconvénient du procédé est le prix du catalyseur. Le complexe de rhodium est onéreux. Une mole de rhodium coûte environ 210 000 francs. Par contre, les iodures sont bon marché. Leur inconvénient est d'être corrosif. Les processus homogènes à grand turnover sont rares. L'intérêt de la catalyse hétérogène et justement d'avoir des plus grands turnover. Les réactions se reproduisent beaucoup plus vite et les sites actifs sont beaucoup plus nombreux. Les catalyseurs principaux sont les métaux, les oxydes de métaux et les zéolithes. Les métaux utilisés en catalyse sont des métaux à droite du tableau périodique et comportent les métaux précieux, le palladium, le rhodium, le platine. Ces métaux servent principalement au pot catalytique. dans une proportion qui fait penser à un gaspillage. Au raffinage pétrolier, il s'agit de transformer un hydrocarbure de faible degré d'octane en un autre à plus fort indice d'octane. Et à la production de produits à valeur ajoutée, par exemple la formation d'aromatiques utilisables ensuite pour la fabrication du nylon ou de polyester, et plus généralement de produits de base où interviennent la chimie, les parfums, les colorants, l'habillement, les matériaux nouveaux, les médicaments. C'est notre environnement quotidien et il vaut mieux utiliser le pétrole en le valorisant qu'en le brûlant. Les métaux sont aussi une denrée précieuse et limitée. Le coût du platine est de l'ordre de 160 000 francs le kilo. En 1999, la joaillerie est restée l'usage majoritaire pour le platine, 48%, mais les pots catalytiques en ont consommé 27%. L'industrie, et je globalise la chimie, l'électricité, le pétrole, les verres, on en représentait seulement 17%. L'inconvénient de la catalyse hétérogène est que le catalyseur est très difficile à caractériser. Il comporte de nombreux sites qui ne sont pas tous semblables et qui peuvent avoir des activités différentes. Les métaux se présentent sous forme d'agrégats, de monocristaux ou de métaux déposés sur des supports. Les agrégats sont probablement les plus intéressants du point de vue industriel. La réaction se produit en surface, et dans un agrégat, il y a beaucoup d'atomes de surface par rapport aux atomes qui sont enfouis à l'intérieur. Et ces atomes sont beaucoup plus réactifs que les autres parce qu'ils sont moins coordonnés. Il y a beaucoup de... ils ont le défaut, les agrégats, de ne pas être... simple à analyser et d'être assez mal défini. Ils peuvent changer facilement d'une forme à l'autre. Il est très difficile de définir un site actif. Parallèlement, c'est très difficile de les mesurer et de les modéliser. C'est pourquoi il est utile, en général, pour comprendre la catalyse, d'utiliser des monocristaux, moins performants, mais mieux caractérisés. On peut tailler les cristaux de manière à avoir des faces bien définies. On peut faire croître de manière à obtenir ces faces bien définies, où tous les sites sont semblables. La périodicité est utilisée à la fois pour des techniques de caractérisation, de spectroscopie, et elle est utilisée aussi pour la modélisation. Cependant, les surfaces bien définies ont donné lieu à quelques surprises. Donc je vous montre déjà une face qui est la face la plus dense et la plus stable du platine. C'est une face compacte où tous les atomes de platine qui sont représentés par des cercles sont bien regroupés les uns près des autres. Elle s'étend de façon infinie dans chaque direction. Bon, je dis que c'est une face hexagonale. J'ai montré un hexagone qui est grand, c'est le plus facile à voir. Je le centre sur les atomes. Et bon, pour les puristes, j'ai représenté un hexagone plus petit qui suffit par répétition à définir toute la surface, à couvrir tout un plan en le répétant. Il n'y a qu'un seul platine par atome. Au début du siècle, Sabatier, c'est un chimiste français qui a eu le prix Nobel en 1912, avait étudié des réactions d'hydrogénation. Et il avait montré que l'hydrogène se dissociait très facilement sur les métaux, et en particulier sur le platine. Mais récemment, à Berkeley, Somorjai a montré que sur cette face, qui est la face la plus dense, la plus propre possible du platine, la dissociation ne se fait pas. Elle est inférieure, la probabilité de dissociation est inférieure à 10-3, ce qui est la limite de détection. Alors, l'hydrogène se dissocie sur d'autres faces, qui sont moins denses, où l'hydrogène se dissocie sur le platine lorsqu'il y a des défauts. Et la plupart des surfaces que l'on a et qui sont réactives ne se présentent pas comme la face idéale que je viens de vous montrer, mais comme ayant des marches, des atomes qui sont ajoutés, des atomes qui manquent. Et les atomes qui sont, par exemple, au sommet des marches ont beaucoup moins de voisins et sont beaucoup plus réactifs. Les sites au pied des marches sont également très réactifs parce qu'on peut former plusieurs liaisons à la fois. Si bien que les molécules qui sont absorbées ont souvent tendance à ne pas rester au milieu d'une terrasse, là où on pourrait penser que la surface est à peu près pure et proche d'une surface idéale, mais au pied des marches, à proximité des défauts. Enfin, la présence d'un support peut modifier beaucoup les réactions. Alors, je vais présenter un histogramme qui montre l'efficacité d'une réaction qui est l'hydrogénation du CO, qui est une réaction importante, par le nickel. Mais la réaction pour le nickel correspond à la colonne de gauche, qui est ici, et toutes les autres correspondent à du nickel qui est déposé sur un support. Alors, le support, c'est de la silice, je ne sais pas si vous pouvez bien lire, de l'alumine ou de l'oxyde de titane. Sur l'alumine et l'oxyde de titane, la réaction est beaucoup plus forte que sur le nickel seul. Je vais parler maintenant un peu des facteurs qui contrôlent l'absorption. Dans les cristaux, plusieurs métaux ont la même topologie. C'est le cas du rhodium, du platine et du cuivre. Et cependant, le mode d'absorption sur ces métaux n'est pas le même. Le mode d'absorption, la force d'absorption, la hauteur de la barrière d'absorption varie. Et ça vient naturellement d'un changement dans le décompte électronique. Le rhodium a 9 électrons de valence, le platine 10, le cuivre 11. Donc, il y a une différence avec les molécules ou les complexes moléculaires. Dans une molécule, dans un complexe moléculaire, on peut facilement attribuer 2 électrons aux liaisons. Ici, dans le métal, ça va être très difficile d'attribuer un nombre d'électrons aux liaisons, et ce nombre est de toute façon inférieur à 2. On ne va pas pouvoir avoir de règles, comme dans la catalyse homogène, correspondant au décompte de 16 ou 18 électrons. En revanche, comme il y a un très grand nombre d'atomes de métal, il y a un nombre encore plus grand d'électrons. Il y a beaucoup d'électrons dans le métal qui ont des énergies très voisines. Alors, c'est ce que j'ai symbolisé sur ce transparent par cette situation, avec des niveaux qui sont plus stables, qui sont remplis. Un niveau de séparation limite, qui est le niveau des électrons le moins stable du métal, et qui va être très important, qui s'appelle le niveau de Fermi, et des niveaux qui ne sont pas peuplés en gros. Si on a un adsorbat qui a des niveaux où il n'y a pas d'électrons, qui sont plus stables que le niveau de Fermi, on va avoir des transferts d'électrons du métal vers l'adsorbat. A l'inverse, si l'adsorbat a des électrons qui sont moins stables que les électrons les moins stables du métal, on va avoir transfert vers le métal. On dit que le métal sert de réservoir à électrons. Les électrons transférés vont modifier la structure de l'adsorbat. On enlève des électrons d'une molécule, elle va se déformer. Le métal lui-même va se déformer de la même façon. On dit qu'il y a une reconstruction de la surface induite par l'absorption. Et on pense maintenant que la reconstruction des atomes de surface peut avoir une influence très importante sur la catalyse. Bon, il est très difficile de séparer ce qui est géométrie de ce qui est électronique, dont je viens de parler. Les interactions concernent des électrons, bien sûr, mais pour qu'une interaction se fasse, il faut nécessairement qu'il y ait une parenté géométrique, qu'il y ait une symétrie commune. Les premiers modèles d'adsorption étaient basés uniquement sur des analogies et des ressemblances entre les adsorbats et le substrat métallique, le catalyseur. Le benzène est une molécule qui est hexagonale. Donc la face que je vous ai présentée du platine, je vous la remontre ici, c'est une face hexagonale, c'est quelque chose qui a priori devrait être bon pour le benzène. Et effectivement, le benzène s'absorbe à plat, de façon simple, sur toutes les faces hexagonales. Le problème est qu'il ne s'absorbe pas uniquement sur les faces hexagonales, il va aussi s'absorber sur des faces carrées qui sont moins stables et plus réactives. Bon, sur cette face, il y a trois sites, on peut distinguer trois sites principaux. Centrer une molécule au sommet d'un atome, entre deux atomes, c'est ce que j'appelle un site tampon, ou entre trois atomes, c'est ce que j'appelle le site ternaire. Mais la symétrie hexagonale n'est parfaitement conservée que dans l'absorption centrée sur le site en sommet. Le benzène, quand il va être absorbé, va être sur les deux autres sites, mais pas le site en sommet. Bon, je vous montre le benzène sur la face hexagonale du platine. Bon, elle est qualifiée à 1, c'est son nom pour nous. Il est au-dessus de d'un site en pont. J'ai mis le point bleu pour montrer le site. Et vous voyez les deux atomes de platine par les cercles qui sont en dessous. Dans le cas du rhodium et du palladium, ben ce sont des sites ternaires. Vous voyez les trois ronds, les trois cercles qui correspondent aux trois atomes de palladium ou de rhodium. On peut aussi essayer d'utiliser les analogies avec ce qu'on connaît du reste de la chimie et d'autres structures. Et je vais vous montrer un exemple. C'est celui de l'absorption de fragments d'hydrocarbures sur du métal. En haut, j'ai représenté le méthane. Et le méthane, c'est un carbone avec 4 hydrogènes, et je l'ai fait tourner. Donc je l'ai représenté, c'est la même molécule, je l'ai fait bouger dans l'espace. En dessous, j'ai mis des fragments d'hydrocarbures absorbés sur un métal. Et on peut penser que par analogie avec le méthane, un groupe CH3 va se mettre en sommet, au-dessus d'un atome, un groupe CH2 en pont entre deux atomes, un groupe CH sur un site ternaire. Ce type de raisonnement est un type de raisonnement qui est très productif et qui marche la plupart du temps. Là aussi, les calculs et l'expérience montrent qu'il y a aussi des exceptions. Dans le cas du nickel, les trois fragments se mettent tous les trois sur le site ternaire. Donc il y a des exceptions qu'on peut comprendre. Le modèle devient plus compliqué. Absorption et catalyse. L'absorption est quelque chose qui est nécessaire à la catalyse, mais cette dernière ne se résume pas à l'absorption. Sans absorption, il n'y a pas de catalyse possible. Mais il ne faut pas que l'absorption soit trop forte. Sabatier avait déjà énoncé que la stabilisation de l'intermédiaire commun avec le catalyseur devait être assez stable, mais sans excès. Un bon catalyseur doit former des liaisons de force intermédiaire. S'il forme des liaisons trop faibles, il est inefficace. C'est simple à comprendre. S'il forme des liaisons trop fortes, les espèces absorbées sont figées sur la surface, ne peuvent plus bouger et ne peuvent plus conduire au produit. Alors, on peut représenter les vitesses de réaction en fonction des forces d'absorption et il y a une courbe qu'on appelle en volcan qui présente un maximum. Dans le cas des alcynes qui sont très fortement absorbées, il faut diminuer l'absorption de manière à augmenter la réaction. Au contraire, dans le cas d'aromatiques qui sont très faiblement absorbées, il faut augmenter la force d'absorption pour augmenter la réaction. Donc vous voyez qu'il faut agir sur l'absorption de deux façons contraires selon les cas. Il y a un autre exemple qui montre la distinction à opérer entre la science des surfaces qui étudie l'absorption et la catalyse. Et ça concerne l'abondance des produits observés. La science des surfaces s'applique à trouver les produits qui sont majoritaires sur la surface. Quand elle travaille assez grossièrement, elle trouve l'ensemble des produits majoritaires en ignorant les détails. Quand on prend l'éthylène sur, sur une surface, je reprends ma surface de platine, c'est pareil, là j'ai le rhodium aussi, l'éthylène se rompt sur la surface, et ce qu'on voit, c'est un fragment qui a perdu un hydrogène, c'est le fragment qui est en bleu ici, CCH3, et qui est absorbé perpendiculairement, et c'est lui qu'on voit. Il est même régulièrement disposé sur la surface, et on peut très bien le mesurer. Bon, ça, c'est des résultats expérimentaux, et vous avez les distances. Il y a un produit qui est très, très minoritaire, qui est l'éthylène, qui ne s'est pas dissocié. Alors, on sait aussi comment il peut s'absorber, mais il y en a très peu. C'est ce qu'on appelle le complexe pi. Vous voyez, vous reconnaissez beaucoup plus l'éthylène, il est un petit peu déformé, et il est sur le métal. Bien, cette dernière espèce, qui est extrêmement minoritaire, réagit 1 million de fois plus vite que l'espèce majoritaire. Donc, l'essentiel de la réaction vient du produit qui est presque négligeable sur la surface. Bon, je vais continuer en disant un mot des mécanismes de réaction assez rapides. Pendant longtemps, on a pensé que le mécanisme de réaction impliquait l'absorption d'un seul des partenaires. Quand on a A et B qui réagissent ensemble, B est absorbé, et A saisit au vol B pour donner le produit à B et faire la désorption. Je donne l'image d'un oiseau de proie qui saisit sa victime au vol. Et c'était bien pratique pour expliquer un certain nombre de choses. Par exemple, quand on prend l'éthylène, si l'éthylène se présente sur la surface en montrant une seule de ses faces, pour l'hydrogénation, ça expliquait facilement que les deux hydrogènes venaient du même côté. Et qu'on prenne l'éthylène absorbé d'ailleurs ou l'hydrogène absorbé, ça revenait au même et ça expliquait bien les choses. Bon, malheureusement, ce mécanisme est l'exception et n'est pas le cas, ne concerne pas l'éthylène, par exemple, l'hydrogénation de l'éthylène. La façon dont on voit le plus souvent les choses, c'est de considérer qu'on a absorption simultanée de A et de B. Les deux atomes ou les deux fragments sur la surface se déplacent, se rencontrent, donnent la réaction et le produit désorbe. Bon, il y a d'autres substrats que les métaux. Les principaux sont les chlorures et les oxydes, peut-être surtout les oxydes. Et les oxydes sont faits de cations métalliques et d'anions O2-. Donc il y a deux sortes d'atomes, et le fait qu'il y ait deux sortes d'atomes va donner des possibilités de réaction beaucoup plus riches et différentes. La plupart des molécules organiques s'absorbent sur le site acide quand elles ne se fragmentent pas, et quand elles se coupent en deux, elles donnent un fragment acide et un fragment basique. Et bien entendu, le fragment acide va se coupler avec le site basique de la surface, l'ion O2-, et puis le fragment basique va se lier au cation métallique. Donc le titane, ça c'est l'oxyde de titane, ou le magnésium, c'est l'oxyde de magnésium. Il y a une dernière sorte de catalyseur qui est très prometteur, qui sont des solides microporeux. Alors, dans les solides microporeux, les réactifs peuvent pénétrer en intercalation à l'intérieur du solide. Et parmi eux, les plus intéressants sont les zéolithes. Et les zéolithes sont des structures faites à base d'alumine et de silice qui ont des structures en cage. C'est des structures poreuses avec des canaux et des cavités. Et à l'intérieur des cavités, les réactifs sont confinés et peuvent réagir. Il y a un effet local de confinement qui doit s'ajouter au reste pour faciliter la réaction. Ce sont d'excellents catalyseurs pour le craquage catalytique des pétroles. Et là aussi, il y a une analogie avec des composés naturels. Nos os sont formés d'apatite et la structure de l'apatite est très proche des structures des zéolithes. Bon, il est temps de dire quelques mots sur de conclusion ou de perspective. J'ai insisté sur le fait que la catalyse concernait presque toute la chimie. les réactions élémentaires engendrées par la rencontre de deux réactifs sont rares. Le développement de la catalyse me semble lié à celui de toute la chimie et correspondre à une prise en compte plus complète de ce que c'est qu'une réaction. J'ai insisté sur le fait que la catalyse imposait d'aller au-delà d'un simple bilan. C'est peut-être un peu décevant de ne pas annoncer de révolution pour le prochain siècle, mais la science est aussi faite d'évolution et d'approfondissement. Et nous avons les concepts pour comprendre la matière. Il reste un énorme travail de connaissance et il s'agit de maîtriser les transformations de la matière pour en accepter certaines et en écarter d'autres. La science moderne s'applique en ce moment à explorer l'action de catalyseurs à l'échelle moléculaire. La science des surfaces fournit des moyens de concevoir rationnellement la modification de l'activité catalytique et de la sélectivité. Le but est maintenant d'aller à 100% de sélectivité. Pour ça, il faut utiliser des ingrédients qui demandent de bien comprendre ce qui se passe. Ces ingrédients sont principalement de bloquer un site, bloquer les sites trop réactifs de manière à choisir le site actif, d'utiliser des catalyseurs bifonctionnels, des mélanges de deux métaux, des alliages. C'est déjà exploré pour les pots catalytiques. De modifier les propriétés par des interactions métal-support. La catalyse est par excellence un domaine frontière. C'est vrai pour la catalyse enzymatique, c'est vrai au premier degré pour la catalyse hétérogène. On est à l'interface solide-liquide, solide-gaz, solide. C'est l'interface entre l'air, la terre et la mer. C'est celle des côtes qui a été importante pour l'origine de la vie et l'évolution des espèces. On fait à la catalyse, comme à la chimie, un mauvais procès en l'associant au développement industriel, effrayant parce que polluant. C'est une sorte d'injustice que de rejeter sur cet outil la crainte que nous avons de l'usage qu'en font les hommes. La catalyse est nécessaire à la vie et l'usage que nous en faisons, les préoccupations dans cet usage, les préoccupations de dépollution sont maintenant très importantes. Au siècle dernier, Oswald avait développé un processus d'oxydation de l'ammoniac pour faire de l'oxyde d'azote. Cet oxyde d'azote servait à la fabrication d'acide nitrique. Maintenant, on s'intéresse beaucoup plus à la réaction inverse, celle de la réduction du monoxyde d'azote pour protéger notre environnement. Comprendre la chimie, c'est maîtriser les transformations. Comme tous les autres outils, et d'une façon générale, comme toute connaissance, elle peut conduire à un bon ou mauvais usage. Les développements suivent les choix politiques et les financements qui en découlent. Peut-on se diriger dans le monde des transformations de la matière dans un sens toujours favorable, en évitant toutes les contreparties négatives? La catalyse nous aide certainement à faire les meilleurs choix. Je ne suis pas sûr d'ailleurs que l'existence de contreparties soit toujours en soi quelque chose de mauvais. Quand j'ai parlé d'empoisonnement, j'ai dit qu'on pouvait détourner à notre profit ce phénomène. On a en ce moment tendance à faire du développement une valeur négative. Il est vrai que chaque progrès s'accompagne d'inconvénients. Il en serait autrement, ce serait un facteur de déséquilibre pour le monde, l'évolution n'étant plus contrôlée. Ce que nous appelons inconvénient joue, à mon sens, également le rôle de modérateur en freinant l'évolution et en permettant au monde de conserver son équilibre. La meilleure connaissance des évolutions possibles devrait nous aider à faire les meilleurs choix et à réduire les inconvénients. Enfin, il me semble paradoxal d'opposer chimie et nature. La maxime de Lavoisier, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme, tout le monde connaît, montre bien que la chimie ne fait que redistribuer des cartes, les cartes qui sont dans la nature. J'ai voulu montrer que la catalyse aidait à contrôler ces redistributions. Les réalisations que nous en faisons dans le monde technologique et industriel sont encore des imitations des processus naturels, souvent encore des imitations grossières, mais la catalyse devrait se rapprocher des transformations fines et maîtrisées que la nature sait opérer. Je vous remercie de votre attention.
Bonsoir, M. monsieur, je vous remercie beaucoup de votre cours, c'est extraordinaire, ça faisait 25 ans que je n'ai pas fait de la chimie, depuis mon bac. Hein. J'ai du coup une question, attendez que je la retrouve. Lorsque vous parliez des exemples des catalyses homogènes, comment ça se fait que lorsqu'on retire deux électrons sur la molécule, ça soit plus stable?
Non.
D'une part, et deuxièmement, je voulais faire une remarque sur une question sur la densité des sites. Est-ce que ça a un rapport avec la solidité du métal? Merci.
Bon, la première question, c'est sur la catalyse homogène. Les deux électrons ne disparaissent pas. Il y a des règles simplement pour expliquer la stabilité, et la règle théorique devrait être un décompte de 18 électrons. C'est ce qui correspond au système le plus stable. 16 électrons n'est pas très loin. Il y a des composés qui ont 16 électrons et qui ont une existence. Il faut que le catalyseur puisse se transformer, donc ne pas être suffisamment stable peut-être pour ne rien faire du tout. Donc on a besoin d'un composé qui ne soit pas tout à fait stable et qui puisse bouger. Les électrons qui ont disparu du rhodium ont été transférés ailleurs et reviennent à la fin sur le rhodium, ou l'inverse, hein, puisque passe de 16 à 18, les électrons qui ont été pris sont pris aux différents ligands qui viennent dessus et sont restitués à la fin. Dans l'ensemble de la réaction chimique, il y a forcément le même nombre d'électrons. Bon, pour la question de la stabilité et du nombre de sites, un métal massif n'a que des voisins, mais on ne peut pas pénétrer à l'intérieur. Donc il faut bien le couper pour avoir une surface. Si on le coupe pour avoir une surface, tous les atomes de surface sont potentiellement des sites actifs. C'est ou un atome ou un site entre plusieurs atomes, comme je l'ai montré. Il y a des surfaces qui sont plus stables parce qu'elles sont plus denses. Elles ont en général beaucoup de sites, mais ces sites sont moins actifs parce que chaque atome est entouré par beaucoup de voisins, et s'il est entouré par beaucoup de voisins, il est plus stable. Quand il y a des défauts ou des surfaces qui sont moins denses, il y a peut-être moins de sites, mais ces sites sont en général plus actifs. C'est ce que j'ai montré quand il y avait des surfaces à marche et des défauts. Bon, les défauts peuvent être minoritaires. Bon, il y a des cas où ils sont à forte concentration. Mais ces sites minoritaires peuvent être très actifs parce qu'il y a en général moins de voisins. Donc, ils sont en général moins stables.
Monsieur,
oui. Oui, bonjour. Bonjour. J'ai une question, mais qui n'est pas directement liée à la catalyse, mais à la chimie théorique. J'ai pas très bien compris le rapport qu'il y a d'une part entre la fonction d'onde, les amplitudes de probabilité, et d'autre part, la forme géométrique des orbitales. Est-ce que ce serait possible de
dire quelque chose ? J'ai pas beaucoup développé, c'est un petit peu cherché à omettre cette description-là. Si vous partez d'une interaction, tous les systèmes, si vous voulez, toute l'évolution est contrôlée par l'énergie. C'est une stabilisation de l'énergie, c'est un petit peu ce que j'ai montré quand même au début. Les interactions orbitalaires vont montrer les interactions entre des électrons et pouvoir prédire comment l'énergie va évoluer. Et ces interactions, quand elles se produisent, elles nécessitent en général un contact. Si vos orbitales qui localisent les électrons sont l'une à Paris, l'autre à Marseille, il n'y aura pas de contact et il n'y aura pas d'interaction électronique. Donc il faut que géométriquement les deux s'approchent. Et en plus de questions de proximité, il y a en général des questions de symétrique, d'adaptation géométrique. Alors, vous avez parlé d'amplitude et d'ondes. Les orbitales représentent des domaines qui sont en phase et en opposition de phase. Et pour avoir résonance entre les deux fragments qui interagissent, il faut des contraintes géométriques pour que les domaines en phase se recouvrent entre eux et qu'il n'y ait pas annihilation. S'il n'y a aucun rapport géométrique entre les deux, en général, il y a compensation. Si on met en phase à un endroit, on va trouver opposition de phase ailleurs et puis l'interaction va être très faible. Donc il faut qu'il y ait des contraintes géométriques pour que les interactions orbitalaires se fassent. Alors, mais vous avez peut-être dans d'autres conférences peut-être eu plus d'exemples avec des orbitales et les symétries des orbitales.
Monsieur,
je voudrais parler un peu de l'analogie que vous avez faite entre la catalyse et les actions enzymatiques. Alors je pense que l'action des enzymes est essentiellement une catalyse hétérogène, puisque,
oui.
Hein, on est d'accord. Mais d'autre part, quand vous avez parlé, par exemple, de l'action de la ribonucléase sur les ARN, enfin l'acide ribonucléique, vous avez parlé à un certain moment, vous avez bien distingué le fait qu'il y avait un site, enfin d'abord une fixation, puis un site actif, etc. Mais vous avez parlé du repliement de chaînes, je crois, à ce
oui.
moment-là, et que ça se faisait avec une rapidité très grande. Vous pourriez donner cette valeur de rapidité?
C'est 10-2 secondes.
Vous trouvez que c'est rapide?
C'est évidemment relatif, mais bon, je vais préciser un tout petit peu ce que j'ai dit. Alors, 10-2 secondes pour faire le repliement. Si on allait complètement explorer au hasard toutes
oui.
les possibilités,
oui.
chaque liaison a deux possibilités. Oui. Hein, mettons qu'on joue sur un paramètre et oui. qu'on le fasse bouger d'une forme à une autre.
Mais vous parlez du segment qui va agir, n'est-ce pas? C'est pas tout l'ARN.
Évidemment, comme on a dit hier, si on peut dans une modélisation se servir de résultats pour restreindre le nombre de possibilités. Donc effectivement, Patrick Chacun l'a montré hier dans sa conférence, on n'explore pas tout le domaine possible, on a une idée déjà des repliements possibles et donc on pourrait faire les choses plus vite. La nature le fait quand même de façon extrêmement vite. Hein. Je voulais dire que si on n'a pas d'idées préconçues. On ne sait pas du tout au départ, on admet qu'on n'ait pas de mesure pour nous dire quel petit bout de la protéine est importante. Mais 2 puissance 100, si on explore ça à une vitesse qui est de l'ordre des fréquences de vibration, hein, ça fait de l'ordre de l'âge de l'univers. Hein. Si j'ai retenu...
En travaillant au hasard,
oui, complet.
C'est ça.
Alors, on ne travaille pas, évidemment, dans les modélisations au hasard. On se sert de données spectroscopiques. Okay. Alors, bon, votre autre remarque aussi, bon, j'ai fait un classement des différentes catalyses correspondant au domaine de la chimie. Là, c'est bien une catalyse hétérogène, puisqu'il y a des milieux différents. Et la catalyse acido-basique, c'est une catalyse homogène, qui pourrait également rentrer sous ce titre-là.
D'accord. Hein,
j'ai distingué les deux.
Oui, d'accord.
Le mot d'homogène pourrait recouvrir les deux.
D'accord. Merci beaucoup.
Monsieur.
Merci. S'il vous plaît, je suis là devant vous, monsieur. Je voudrais vous poser une question très pragmatique en ce qui me concerne, s'agissant du fait que la catalyse, comme vous l'avez expliqué, est utilisée évidemment dans les domaines industriels. Alors, pourriez-vous, pour me préciser certaines idées, me donner une triple réponse sur le temps moyen nécessaire à des réactions catalytiques selon quelques cas, par exemple, du point de vue industriel, sur la proportion de la quantité de matière catalytique par rapport aux matières qui entrent en réaction de par l'action de la catalyse, et puis éventuellement sur les températures à partir desquelles peuvent se déclencher les actions des produits catalytiques. Merci.
Bon, je crains de pas pouvoir bien répondre à votre question. Bon, j'ai donné un exemple qui était la réaction de Monsanto. Les millions de fois où la réaction est répétée, traduit en termes de temps, si on fait la conversion, donne quelque chose qui est de l'ordre de quelques heures à 30 heures à peu près. Donc, bon, je ne suis pas. Je suis théoricien plus lié à la modélisation qu'aux résultats pratiques. Bon, je sais que ça varie, que souvent les quantités de catalyseurs sont beaucoup plus importantes que celles qu'on pourrait supposer dans le système. Il faudra compléter avec un industriel pour avoir une réponse plus précise.
C'est un... Le pétrole.
Oui, les températures. Les températures sont souvent élevées, la pression est également souvent élevée. Donc beaucoup d'expériences qui sont faites dans la modélisation par la science des surfaces sont faites dans des techniques qui nécessitent souvent des vides poussées et des très basses températures. Bon, des réactions sont souvent faites à des températures qui sont beaucoup plus élevées. Mais bon, on suit aussi en fonction de la température, et il n'y a pas les mêmes espèces quand on est sous vide et très basse température ou quand on monte en température. Et bon, il se développe de plus en plus maintenant de méthodes d'observation qui sont faites à haute température et sous pression. Bon, ça n'est pas encore l'essentiel, mais bon, c'est bien développé.
Bien, nous allons vous en tenir là. Merci.